Les pieds sur terre, Sonia Grönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Ce sont des aventures d'un soir qui ont un parfum de liberté, de transgression, de mystère. Il s'agit, dans un temps suspendu, d'échapper à l'autorité de l'État et aux règles du dessus. Descendre dans un monde interdit et se l'approprier. Car pour se rendre dans les catacombes et prendre part à l'une de ces explorations, une de ces soirées musicales ou dansantes, ou même une projection clandestine qui se tienne quelque part dans les 300 km de galeries, il faut être invité ou plutôt initié. Au passage secret, au rite, au code, à ce langage particulier qui permette de se reconnaître entre cataphiles. Certains dorment sur place, d'autres festoient, randonnent, certains encore se défoncent et transgressent à fond tout. Mais les purs vous diront que ce n'est pas le but. C'est pourtant ainsi qu'en 2011, une jeune fille de 22 ans et deux de ses amies de 24 et 25 ans, après une soirée arrosée dans les dites catacombes, se perdent dans une galerie souterraine. Après plusieurs heures où ils partent à leur recherche, raconte le Parisien, leurs camarades déclarent forfait et remontent à la surface pour donner l'alerte. Pendant ce temps, les heures passent et bientôt une première nuit sans trouver de sortie. Paniqués, le trio de jeunes écervelés écrivent alors un appel au secours qu'ils laissent dans un endroit qu'ils jugent stratégique, au pied d'un ossuaire. Il est 6h30, ce mercredi 27 juillet, nous sommes perdus, nous nous dirigeons vers le sud. La police se met à leur recherche, secondée par le groupe d'intervention et de protection de la direction de l'ordre public et de la circulation. 6 groupes se répartissent les galeries, totalisant 35 policiers qui fouillent tous les recoins des catacombes, jusqu'à ce que l'une des équipes découvre l'appel à l'aide à côté des ossements. Cela fait maintenant plus de 48 heures que les jeunes se sont perdus. Lorsque les policiers les trouvent finalement, ils sont endormis, épuisés. Ils écoperont de 135 euros d'amende, car il est interdit de se rendre dans les catacombes sans être accompagné par un groupe et ils seront pris en charge par les pompiers. Tout de suite dans Les Pieds sur Terre, c'est le Grand Frisson 7e épisode, 6 pieds sous terre et 2 autres histoires qui font peur et se passent sous terre, par Clément Baudet.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. Et c'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Nicolas Violent, j'ai 39 ans. J'ai grandi dans le Lot, à Gramat, une petite commune, non loin de Rocamadour et du gouffre de Padirac. Alors mes mercredis après-midi, quand j'étais au collège et au lycée, je prenais mon vélo et je cherchais des entrées, je cherchais des grottes. Alors j'ai découvert la spéléo à 15 ans, grâce à un collègue de mon père qui faisait une sortie d'initiation. Ce que j'ai beaucoup aimé à ce moment-là, c'est voilà, l'aventure, le fait de ramper, d'être à genoux, d'avoir tantôt des parties étroites, tantôt des parties immenses. Voilà, c'est un plaisir de progresser dans un endroit inconnu et coupé du monde. Il y a peut-être certaines personnes qui ont une certaine angoisse au moment de rentrer sous terre. Moi, ça a plutôt toujours été une excitation parce qu'on sait qu'on va à chaque fois avoir quelque chose de fabuleux, voir ce travail de l'eau, ces concrétions, ces stalactites, ces stalagmites, ces coulées, ces draperies, toutes ces choses qui brillent, qui sont fascinantes. Alors, ce jeudi 11 novembre, c'est ma première permission. Je viens de m'engager dans l'armée de terre quelques mois avant et je décide de descendre dans le Lot, retrouver mes parents et surtout profiter de ces quelques jours pour aller explorer une rivière souterraine, la rivière souterraine des Vitarelles, que je connais déjà, que j'ai explorée au moins 4 ou 5 fois, et nous sommes 7 compères à préparer une sortie sur 3 jours. Tout est quand même plutôt planifié. La prise de la météo ce jeudi après-midi était particulièrement favorable pour nous. Les feux étaient au vert pour passer vraiment un bon moment. Alors bien entendu, quelle que soit la situation, sous terre, après quelques mètres, nous n'avons plus aucun contact avec la surface. Nous descendons, nous atteignons effectivement la rivière après une centaine de mètres de dénivelé. C'est un véritable tunnel avec tantôt de l'eau au niveau des genoux, tantôt un petit peu plus haut. En tout cas, une progression très facile. Nous remontons cette rivière et nous avançons très vite jusqu'à l'endroit du premier bivouac. C'était un peu particulier pour moi puisque c'était ma première nuit sous terre. Cette première nuit se passe très très bien. Nous dormons au haut de la salle du cône avec une hauteur de plafond assez importante puisqu'elle fait presque 60 mètres de hauteur. Le lendemain, le vendredi 12 novembre, nous atteignons une partie plus sportive, plus physique, où nous sommes obligés effectivement de prendre les canots pneumatiques pour progresser. Le niveau d'eau étant quand même relativement bas, il ressort de la rivière des petites parties rocheuses assez abrasives, très pointues, qui malheureusement crèvent 4 canots, donc sur les 7. Rien de dangereux en soi, il suffit de nager un petit peu, c'est pas grave. L'eau est à une dizaine de degrés, mais effectivement on est quand même un petit peu secoué par le niveau d'eau qui donne un courant un petit peu plus important. Et nous décidons d'installer notre bivouac au bord de la rivière, à peu près 200 mètres après la salle de la clé de voûte, dans un endroit qui ressemble fort à une plage de sable fin, plutôt agréable, avec la rivière en contrebas. Le niveau d'eau est toujours très calme. Et sur le coup de 23 heures, après un petit repas, tout le monde s'endort tranquillement. Philippe, lui, est allongé un petit peu plus bas, et par acquis de conscience, s'installe quand même un petit système avec une petite clochette. 2 heures du matin, eh bien, Philippe se réveille, les jambes complètement trempées. La petite clochette n'a pas résonné. Le niveau a déjà monté d'une bonne cinquantaine de centimètres. Et surtout, cette eau s'est colorée marron, signe que quelque chose était en train de se passer. On se réveille en sursaut, après 2-3 heures de sommeil, dans une galerie totalement métamorphosée, avec le bruit de l'eau qui commence à être beaucoup plus présent. Et puis surtout, un spéléologue, même amateur, a déjà entendu parler de ce genre de situation, en tout cas dans les livres. Et nous savons tous les 7 qu'il est plus sûr d'attendre sur place, plutôt que de forcer et de tenter quoi que ce soit pour s'en sortir. Donc l'objectif pour nous, c'est de trouver un endroit plus en hauteur où on peut se poser et réfléchir un petit peu plus. On devine de l'autre côté de la rivière une petite plateforme à 4 mètres de hauteur. Sébastien traverse à la nage avec une corde attachée à lui. Il fixe cette corde de l'autre côté et cette corde va nous servir pour traverser tous les 6 avec le matériel. Nous atteignons cette plateforme à 4 mètres avec une petite escalade à faire. Cette petite plateforme est plutôt horizontale, un peu boueuse, mais en tout cas nous laisse suffisamment de temps pour analyser la situation. Et nous nous rendons compte qu'à ce moment-là, l'eau monte d'à peu près 2 cm à la minute, ce qui est une montée très rapide. On n'a aucune explication. Pour nous, la météo était bonne avant de partir. Il n'y a pas de barrage situé en amont sur cette rivière. Donc effectivement, on se pose beaucoup de questions à ce moment-là. Nous sommes de plus en plus coincés dans une petite surface attachée à cette corde, sans aucun moyen de bouger à droite ou à gauche. Nous sommes dans un volume plus confiné. La surface au-dessus de notre tête se réduit considérablement. Nous sommes obligés d'aller dans les canots de sauvetage parce que la corde ne nous permet plus aucune sécurité. Après plusieurs tentatives, on réussit, chacun des binômes, à trouver une position qui permet effectivement d'être positionné dans ces canots, dos à dos, avec quand même une bonne partie du nombril sous l'eau. Nous avons, quelques minutes avant, coupé le gaz acétylène pour éviter qu'il y ait une émanation de gaz qui pourrait être toxique dans le temps. Et on commence à économiser, bien sûr, les lampes électriques. De temps en temps, nous allumons la lumière pour voir encore l'eau monter et surtout, au-dessus de notre tête, le plafond se rapprocher. nous sommes retrouvés dans une cloche d'air, au plafond, à essayer de flotter tant bien que mal. Ça commençait à être une vraie souricière, et il y a un moment où la peur vraiment prenait le dessus, parce que le niveau d'air allait lui s'épuiser. Et là, bah, on attend encore. Et puis un moment, enfin, l'eau arrêtait de monter. Là, c'est une autre angoisse qui apparaît, parce que nous savons que nous sommes dans une poche d'air sous pression, et on a du mal à savoir ce qui allait se passer. Vous prenez une bouteille d'eau, vous la mettez à l'horizontale, et vous êtes au milieu de cette bouteille d'eau, que vous secouez à droite, à gauche. Bien, les vagues de crue, elles font un peu ça. Elles vont dans un sens, elles vont dans l'autre, entre 1 mètre et 1 mètre 50, et on est totalement à la merci des eaux en furie. On a la cage thoracique qui tremble de vibrations, les oreilles bouchées et du mal à respirer tellement l'air est saturé d'humidité. Pendant 10-15 minutes, ces vagues vont dans un sens puis reviennent. Et puis enfin, la rivière se calme un petit peu. C'est là où on se dit, le plus dur est passé. On a évité le pire. Si on avait continué à descendre avec, en même temps que l'eau, on serait mort noyé, c'est une évidence. Donc on attend effectivement que l'eau retrouve un niveau à peu près stabilisé pour pouvoir enfin redescendre sur la première plateforme sur laquelle on pouvait déjà un petit peu plus se mettre en sécurité. Il est bien passé au moins 14 heures à partir du moment où on est resté dans l'eau. Fort heureusement, tout était bien arrimé, bien attaché. Il nous restait donc que peu de nourriture, puisque c'était l'avant-dernier repas qu'on avait mangé la veille. Pour avoir déjà vécu un petit peu ça, une petite échelle, pendant mes classes à l'armée quelques mois auparavant, où il y a des moments où, effectivement, on nous apprend à vivre un petit peu sur ses réserves. J'avais déjà connu le fait d'avoir faim. On a faim et on n'a pas le choix. Il faut attendre, il faut vraiment économiser au maximum ses ressources. Après un rapide calcul, on a décidé qu'on allait rationner la nourriture et manger un petit repas au moins toutes les 12 heures. Alors je me souviens d'un repas, c'était une cuillerée de riz au curry. Nous avions deux clémentines. Eh bien, sur les deux qu'on avait, ils étaient chacun divisés en 7. Ça tombait bien. Pas de problème, pas de jalousie pour chacune des mandarines. Un marron qui commençait à un petit peu pourrir. Et 15 centilitres de thé chaud. On attendait évidemment à ce que quelqu'un vienne nous sauver, vienne nous retrouver. Seulement, on connaissait aussi la configuration de la rivière. Une grosse rivière comme ça, il était quasiment impossible de venir à notre rencontre facilement. Et on s'attendait à une attente assez longue. Alors il arrive effectivement à un moment où on perd totalement la notion du temps. Une personne avait une montre, hein, tout bêtement, et mettait l'alarme toutes les 12 heures. Et ben, ça permettait également de voir un petit peu le temps qui passe. Donc l'attente, il y a quelque chose d'un peu particulier qui se met en place. C'est un cycle de sommeil très personnel. On n'a plus l'influence du soleil ni de la lune. Moi, j'ai beaucoup dormi. Dans le froid, dans le sombre, dans cette humidité permanente, dans ce bruit de rivière permanent. Mais voilà, on se dit que de toute façon, bah, le mieux, c'est d'attendre. Toutes les 12 heures, effectivement, on se réveillait tous ensemble. Il y a un moment où le groupe était un petit peu divisé en deux, avec ceux qui se disaient, ça y est, le niveau d'eau a quand même bien baissé, est-ce que ce serait pas judicieux de tenter de sortir par nous-mêmes? Et puis, un autre groupe, peut-être un peu plus sage, qui lui disait, on commence à être un peu faible, le niveau d'eau est quand même très fort, on va attendre encore. Alors au bout d'une semaine, le jeudi qui suit, deuxième crue. L'eau remonte, elle redevient de plus en plus boueuse, et là c'est très difficile encore à gérer parce que les organismes ont déjà été pas mal éprouvés, la situation commence à être vraiment très très compliquée. Et puis surtout, le rythme auquel nous mangions nous permettait de tenir encore 2 à 3 jours. L'attente qu'on avait réussi à gérer pendant une semaine va devoir être encore plus longue, de parce que le niveau recommence à monter, la décrue va être donc repoussée. À ce moment-là, c'est assez terrible. On se sent totalement abandonné. Chacun a eu ce moment d'angoisse, mais l'a gardé vraiment au plus profond de soi. Heureusement, au bout de quelques heures, on se rend compte que l'eau ne monte pas si haut et on reste au sec sur notre plateforme. Mais ça en rajoute un coup au moral, ça c'est certain. Puis au bout de 8 jours d'attente, 2 personnes se réveillent en même temps et ont entendu distinctement des voix. Et c'est assez courant qu'on entende des petites choses, l'esprit divague. Après avoir bien tendu l'oreille, on n'a rien entendu de plus. On s'est dit, bon, voilà, c'est encore une hallucination. Ça a un moment renforcé un petit peu le côté désespoir en se disant, bon, personne vient nous chercher, personne vient nous sauver. Jusqu'à ce dimanche, sur les coups de 8h du matin, où là, distinctement, on entend une personne parler à une autre personne. Ça faisait 9 jours qu'on était coincé par cette rivière en furie. En tournant la tête, j'ai bien vu que chacun de nous 7 s'était redressé, assis ou debout. On s'est tous regardés, éberlués, presque choqués. On dit là, c'est pas une hallucination, on a clairement entendu quelqu'un. On a hurlé un « Oh !» et absolument... Salvateur. Et puis, au bout d'une fraction de seconde de silence, on a eu une réponse, quelqu'un qui nous répondait, un ohé également, une sensation mais formidable de réchauffement dans tout le corps, quelqu'un allait venir nous sauver. C'est très émouvant, c'est un moment totalement indescriptible. Je suis sorti le premier. Qu'on arrive en surface, il fait nuit, il est 23h. Sauf que, en fait, il fait jour tellement il y a des flashs aveuglants. On se rend compte aussi à quel point on a eu de la chance. Ces pluies qui se sont abattues et qui ont fait gonfler le niveau de cette rivière ont également fait 35 morts dans le département de l'Aude et du Tarn. Ont absolument rasé des villages. On a échappé à la mort, clairement. Je suis retourné sous terre quelques mois plus tard pour aller conjurer un peu le sort, on va dire. Chaque descente sous terre, maintenant, on prévoit peut-être un petit peu plus de nourriture, une petite réserve de piles en plus, un petit peu plus d'eau. Alors oui, c'est du matériel en plus, mais voilà, c'est quelque chose qu'effectivement qu'on prévoit un petit peu mieux. Maintenant, j'ai un jeu de cartes dans mon sac à dos.
France Culture, les pieds sur terre.
Je m'appelle Henri, j'habite à Roche-la-Molière, à côté de Saint-Étienne. À 14 ans, j'ai voulu rentrer à la mine. Mon père travaillait à la mine. Hein. Tout le monde travaillait à la mine. Hein. Alors moi, c'est pareil. Quand j'ai fini mon apprentissage, là, je suis descendu au Puy-Charles et hop, on est descendu au fond. Hein. Et on descendait à 400 mètres de profondeur, hein, avec une cage. On rentrait 18, 20 dans la cage, et on descendait, on mettait peut-être 30 secondes hein, pour descendre en bas, quand on se balançait, hein, et ça arrêtait quasi le cœur. Hein. Et bien, quand on était au fond du puits, on avait un petit train qui nous menait jusqu'au charbon, jusqu'aux galeries de charbon. Parce qu'il y avait peut-être 700 mètres, 800 mètres de galerie. Hein. Ah ben moi, j'abattais le charbon, hein, avec le marteau-piqueur. Hein. Et le marteau-piqueur, et puis on tirait la mine, hein, quand c'était trop dur. Tire la mine, ben des explosifs. Comme je suivais les autres, hein, j'ai jamais eu peur. Hein. Non, non. On passait toute la journée sous terre, hein, nos 8 heures. On se mettait en slip et puis c'est tout, hein, parce qu'on transpirait comme des bœufs. Il y en a même qui travaillaient à poil, hein, tellement il faisait chaud. on arrivait à vider les bottes de transpiration. Parce qu'on avait des bottes, hein. On avait des bottes. Le jour qu'il y a eu la catastrophe, c'est-à-dire, je travaillais de nuit là-bas, dans ce chantier. Et on avait fait notre compte, on est parti, je suis rentré à la maison. C'était vers les 9h, 9h30, il y en a un qui est venu m'appeler que vite, il faut que j'aille à la mine parce qu'il y a une catastrophe. Je me suis vite habillé, hop, il était en voiture, on a filé. Et au Puchard, quand je suis arrivé, hop, je suis descendu. Quand on est arrivé, ils étaient en train de mettre l'aérage. Il y avait un gros ventilateur et on rajoutait des ventubes en plastique. Et là, la chaleur, le plastique, ça l'avait fondu complètement. Le plastique fondu. Ils ont estimé à 2000 degrés. L'explosion. C'est avec du coup, quand on est arrivé là-bas, ils étaient tous allongés. Ils étaient en slip, bien sûr. Ils étaient tous rouquins, les cheveux. Bah, ça brûlait. Les cheveux, ça les a brûlés. Tous rouquins. Quand on les a vus, alors bien sûr, là, ça a été la grosse catastrophe. Hein. Ça fait que du coup, il y a le chef, tous, ils sont venus et puis ils nous ont dit ben, ce qu'il faut faire. Avant que les sauveteurs, les Saint-Étienne, qu'ils arrivent, et puis tout le. De les mettre. Alors on avait des toiles. Alors on les a roulées dans la toile. Mais je vous dis rien. Quand on les attrapait comme ça, les doigts, ils rentraient dans la chair. Peut-être sur 1 centimètre. C'était brûlé. Vous savez qu'on les a roulés. On les a roulés. Et je vous raconte une histoire. Un coup, quand on a roulé un, il y avait, avec moi, il y avait Ferry, il y avait Jouve, et puis je ne sais pas les autres. Et le Jouve, en enveloppant comme ça, on était à genoux, qu'on les enveloppait, il avait les larmes qui coulaient. Et Ferry qui lui dit, un jour, qu'est-ce que tu fais? Tu pleures? Et le jour, il dit, non, je pleure pas. C'est mes larmes qui coulent toutes seules. On n'avait que les yeux pour pleurer. C'est tout. Quand vous avez un mort, c'est inimaginable. Ça aurait pu être moi, hein? Et après, quand les sauveteurs qui sont venus de Saint-Étienne, après, ils les ont évacués dans la grande galerie. Et après, ils les ont mis comme il faut, ils les ont. Ils étaient six morts, tous des copains. Père Vander, qui était à 2 mois de la retraite, c'était un grand copain. Ojnaki, il avait, je crois, 22, 23 ans. Et les autres, ils avaient peut-être 30, 40 ans. Ils ont dit, ou c'est un coup de grisou ou un coup de poussière. Moi, personnellement, c'est un coup de grisou. Parce qu'il y avait du grisou, beaucoup. Beaucoup. Alors, il faut reconnaître, hein, plus on descendait, hein, plus il y avait du grisou. Le grisou, c'est un gaz qui s'allume, hein. Dès qu'il y a une flamme ou quelque chose, ça explose. Ça explose. Après l'accident, c'est-à-dire qu'il y a eu, c'est-à-dire pendant 3 jours, la mine a fermé, puis tout le monde était en arrêt. Hein. Tout le monde a fait le deuil, hein. Ouais, les obsèques ont été organisées quelques jours plus tard. Hein. On a tous été au stade de Beaulieu, qui avait tous les cercueils. Il y avait les ingénieurs, il y avait le maire, les maires. de Roche, de même Saint-Étienne, il y avait c'était des milliers de monde, hein. Oui, il y avait un monde, une foule. Et tout ce monde, dans les tribunes, partout, et un silence. Après, remonté par la nationale, ils ont bouché la route. Tout le long, il y avait du monde. Jusqu'à l'église, et à l'église, n'en parlons pas. Et le silence. C'était vraiment triste. On a continué à travailler après, hein, dans le chantier. Après l'enterrement, tout. Eh bien, on a continué jusqu'au fond de la galerie, hein. J'ai déblayé là-bas la mine. Quand je faisais partie des sauveteurs, j'ai travaillé. Il n'y avait pas d'aide psychologique. Alors, non, le syndicat, hein, personne n'a rien dit. Hein. Tout le monde travaillait, il fallait travailler. Hein. Il n'y avait pas d'autre solution. Hein. On a continué à travailler comme si rien n'était. Qu'est-ce que vous voulez? C'était comme ça. Tout le monde a fait comme si rien n'était. On est toujours redescendu et puis on a continué le travail. Hein. Parce qu'est-ce qu'il fallait faire? Moi, je les vois toujours, hein. Surtout quand ça approche la Sainte-Barbe. Puis même comme ça, à des moments, je les vois toujours, hein.
Well, you play that tarantella and all the hounds, they start to roar. The boys all go to hell. And then the Cubans hit the floor. They climb along the pipeline. They tango till they're sore. They take apart their nightmares and they leave them by the door. Or let me fall out of the window with confetti in my hair. Deal out jacks or better on a blanket by the stair. I'll tell you all my secrets, but I lie about my past. So send me off to bed forevermore.
C'était notre série Le Grand Frisson avec un épisode spécial Sous Terre que j'ai appelé Six Pieds Sous Terre. Reportage Clément Baudet, réalisation Yaël Mandelbeau. Merci à Nicolas, à Henri, à Rémi Limagne, à Julien Moula et à Olivier Roche. Merci également à Clémence Grosse, c'est Jeanne Delecroix et Camille Richir qui coordonnent cette émission et c'est Nino Lima, notre stagiaire.